Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les problèmes de transport pour être parmi nous. Bienvenue aussi, bien sûr, à ceux qui nous suivent sur YouTube. Eux, ils sont dans leur salon, tranquilles. Ils ne se demandent pas très bien comment ils vont faire pour rentrer chez eux ce soir, comme David et moi. Mais voilà, tout va bien. On est content de vous avoir ici. Donc, je vais commencer par vous présenter les conférences à venir. Le 4 avril, nous aurons Pierre Guillard, qui travaille à l'IAP, et qui va nous parler de la formation des galaxies. Donc, pourquoi la formation des galaxies est-elle inefficace? L'apport du télescope spatial James Webb sur la croissance et l'évolution des galaxies, donc des résultats tout nouveaux, tout chauds, qui viennent d'arriver du télescope James Webb. Ensuite, le 2 mai, nous aurons Nicolas Martinet du LAM à Marseille, qui va nous parler de nouveau de l'antigravitationnel, mais pas vu sous le même angle. Et donc, sa conférence s'appelle « Éclairer l'univers sombre grâce aux lentilles gravitationnelles ». Donc, je pense que ça sera très intéressant d'avoir deux points de vue sur les lentilles gravitationnelles, un point de vue plus historique aujourd'hui, et dans 2 mois, un point de vue plus sur la recherche actuelle sur les lentilles. Enfin, je ne sais pas exactement ce que David va nous raconter, mais je vois ça comme ça. Voilà, et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir David Valsgabo, qui est chercheur, directeur de recherche au LERMA, au laboratoire LERMA à l'Observatoire de Paris. Donc il a fait son DEA ici, à l'époque où ça s'appelait encore DEA, et maintenant c'est le Master 2. Il a fait ensuite sa thèse à Cambridge, en venant quand même régulièrement nous rendre visite à l'IAP. Il a fait des post-docs au Canada, à Strasbourg, à Toulouse. Il a travaillé au télescope Canada-France-Hawaï et à Cambridge. Donc, il est très mobile. Il a beaucoup voyagé. Il est beaucoup allé d'un laboratoire à un autre pour collaborer avec beaucoup de personnes différentes. Et il s'est particulièrement intéressé à l'histoire des sciences. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de l'espace-temps déformé et nous aurons, je crois, une petite démonstration d'une déformation par des lentilles tout à l'heure. Donc l'espace-temps déformé, une histoire des mirages gravitationnels. Merci David.
Merci Florence, merci Jean pour la régie. C'est un plaisir d'être de retour dans ces murs. Et je vais vous parler de lentilles gravitationnelles, de mirages gravitationnels. Martinet pourra en parler plus en détail dans quelques mois. Mais je vais vous donner plutôt un aperçu plus historique, philosophique et même sociologique. Mais avant tout, peut-être que je devrais parler de pourquoi je ne suis pas en grève, parce que je suis supposé être ici. Et la raison, c'est parce que nous, scientifiques, avons une responsabilité sociale. Et nous devons transmettre nos connaissances vers le public. Et l'une des connaissances les plus essentielles, c'est justement la connaissance du ciel. Et donc, si vous êtes en train de regarder le ciel étoilé pendant une belle nuit d'été, vous ne pourrez éviter de vous poser des questions sur la nature de l'univers, sur la compréhension que l'on peut avoir. Mais cette vision va durer très peu longtemps. La photo d'avant était prise en Bretagne, celle-ci est prise en Australie. Et voilà la pollution lumineuse produite par les constellations, plutôt les flottilles de satellites, qui sont en train d'être lancées essentiellement aux États-Unis. Donc la perspective de ciel étoilé pur, comme on le voyait avant, est quelque chose qui va être du passé, parce que le présent et le futur vont être encore pire que cela. Donc l'individu qui a causé cette pollution lumineuse, M. Elon Musk, a dit, bon, les astronomes sont embêtés, vous n'avez qu'à mettre vos télescopes en orbite. C'est ce qu'on a regardé, et bon, depuis le ciel, depuis la Terre, on voit ces images terribles, parce qu'on ne peut pas éliminer toute cette pollution. Et depuis l'espace, voici un article de la semaine dernière qui montre que aussi le télescope Hubble est perturbé par cette pollution. C'est encore pire parce que plus on va lancer cette flottille de satellites, plus la probabilité qu'elle collisionne, ça va donner ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, elle va être énorme. Et donc on va avoir une espèce de coquille de débris qui va nous empêcher même de sortir de l'environnement terrestre. Ceci donc à l'échelle de 15-20 ans, si nous n'arrêtons pas avant. À l'échelle un peu plus longue, 2050, je ne peux pas éviter de vous parler de la crise climatique, et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici en ne pas faisant rêve. C'est parce que ceci était le rapport du GIEC en 2019, vous voyez le dernier point en 2017. Si je rajoute les points de 2020, on est exactement sur la trajectoire prédite en pointillé. Donc la prédiction que l'on a fait lors du COP en 2015, c'était d'arrêter la consommation, la production de CO2 dès 2020. En fait, on est en train de continuer à augmenter cette contamination. Et donc, on n'arrivera jamais à avoir une émission nette de zéro en 2040. Donc, ceci est quelque chose que vous devez transmettre à vos députés, aux sénateurs, parce que c'est eux qui vont, in fine, prendre les décisions qui s'imposent. Vous vous rappelez qu'en 2019, il y avait eu la Convention citoyenne sur le climat, 150 citoyens pris au hasard pour discuter des mesures qui devaient être prises. Eux-mêmes ont considéré que cet exercice de démocratie était extrêmement salutaire. En revanche, lorsqu'on regarde quelles ont été les conséquences du point de vue du gouvernement, c'était très insatisfaisant. Et comment le gouvernement a pris ces mesures, encore plus insatisfaisant. Donc même cet exercice simple de démocratie n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qui nous reste, nous, autres scientifiques, pour convaincre les dirigeants? C'est que vous, le public, puissiez faire aussi pression. Voilà, donc je ferme cette parenthèse qui explique pourquoi notre responsabilité en tant que scientifique est tellement importante envers le public. Donc je vais parler plus aujourd'hui donc de mirage gravitationnel, et cette étude que je vais vous présenter provient d'une frustration. Une frustration que lorsque je lis un livre d'histoire des sciences, ce n'est pas vraiment la science telle comme la pratique nous les scientifiques. Et ça a été très bien résumé par Gérard Simon, un très grand historien des sciences français, spécialiste de Kepler en particulier, qui nous disait, lorsque je lis une histoire des sciences, j'ai l'impression de lire une sorte de roman. Non pas que tout m'y paraisse faux, mais tout m'y paraît factice. Ni vrai, ni faux, mais inauthentique. Et c'est exactement ça. Lorsque vous regardez la grande progression en grande échelle, vous avez Hipparque, vous avez les Copernic, Galilée, Kepler, Newton, Einstein. Oui, c'est peut-être correct, mais la science ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas une progression linéaire. Et donc, je vais prendre aujourd'hui l'exemple des lentilles gravitationnelles pour vous montrer que la science est beaucoup plus compliquée que cela. Et donc, se poser la question, qui était le premier à découvrir une lentille gravitationnelle? Ou qui était le premier à concevoir l'idée d'une lentille gravitationnelle? Donc, c'est ces sujets-là que je vais aborder aujourd'hui, ce soir. En fait, ceci est très mal perçu par les scientifiques eux-mêmes. Et la raison provient que dès les années 70, on disait que la philosophie et l'histoire des sciences est aussi utile aux scientifiques que l'ornithologie et aux oiseaux. Et c'est quelque chose qui a vraiment marqué beaucoup de générations de scientifiques depuis les années 70. C'était attribué à Feynman, mais je n'ai pas pu trouver la source primaire. Mais c'est vraiment la concept. À quoi bon faire l'histoire et philosophie des sciences? On va laisser ça aux historiens et philosophes, mais nous autres scientifiques qui travaillons sur la paillasse, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous serez convaincus que ce n'est pas le cas, que justement en regardant l'histoire des lentilles gravitationnelles, vous allez apprendre énormément sur la science elle-même. Donc le terme lentille gravitationnelle apparaît pour la première fois dans un contexte totalement négatif. C'est assez bizarre, mais le mot donc lentille gravitationnelle apparaît en anglais pour la première fois, et c'est un petit article, en fait un commentaire dans la revue Nature qui disait « Il n'est pas permis de dire que le champ gravitationnel solaire agit comme une lentille parce qu'il n'a pas de longueur focale. Bon, » c'est assez perturbant comme idée. On va voir que cette idée est parfaitement correcte. Le champ gravitationnel du Soleil agit pas vraiment comme une lentille, mais quelque chose comme une espèce de déflexion. Donc ce point-là est parfaitement correct. Quel est le contexte de cet article? C'est en fait la fameuse éclipse du 29 mai 1919 qui passait depuis les côtes du Brésil jusqu'aux les côtes de l'Afrique, et pour laquelle deux expéditions montées par les Anglais envoyèrent deux séries de télescopes pour mesurer la déflexion que Einstein avait prédit. Alors là, ça c'est une autre image de l'éclipse de 1922, et vous voyez qu'entre la position, les points noirs des étoiles lorsque le Soleil n'est pas présent, et la position lorsque l'étoile est présente, qui est au bout des flèches, il y a une déflexion. Et c'est ce que Einstein avait prédit dès 1915. Et c'est pour ça que deux expéditions ont été montées, et voici l'un des exemples. C'était typiquement l'une des expéditions astronomiques pour faire des éclipses de soleil. On avait un coelestat, c'est-à-dire un miroir plan qui allait prendre la lumière du soleil et la renvoyer vers le tube horizontal. Vous aviez un astrographe et vous avez finalement un télescope. Donc de ces trois télescopes, il y en a deux qui fonctionnèrent très bien et la même chose se produit à Principe, à l'autre éclipse. Et c'est très, très difficile parce que ces coelestats, toutes ces optiques sont faites pour mesurer la lumière des étoiles, la nuit, lorsqu'il fait froid. Pendant un soleil, pendant une éclipse de soleil, il fait très très chaud, les miroirs se dilatent. Et donc les plaques photo, à l'époque, vont aussi se dilater. Et donc toute la gageure de l'époque, c'était de pouvoir séparer l'effet de déflexion produite par la relativité, prédite par la relativité, des effets de dilatation de la plaque ou des miroirs, qui allaient changer l'échelle. Et donc on pouvait mesurer des déflexions qui ne sont pas du tout dues au champ de gravitation du soleil. Mais les observations furent très, très soigneuses. Donc à Sobral, donc l'une des instruments était pas au foyer, à cause justement du soleil. À Principe, le coelestat fonctionna, et donc on put mesurer que la déflexion du soleil était exactement celle prédite par Einstein. Et du jour au lendemain, Einstein devint vraiment une star de l'époque, aussi fameuse que Charlie Chaplin. Et vous voyez ici, encore une fois, c'est très, très schématisé, mais l'image à gauche de l'étoile, c'est lorsque le soleil n'est pas présent, lorsque l'océan est présent, il y a une petite déflexion. Et c'est ça, une seconde arc au bord du limbe du soleil, qui fut mesuré à cette époque. Et donc, ceci fut le lancement d'Einstein en tant que figure médiatique. Il était déjà très bien connu en tant que scientifique, mais vraiment le public le connut à ce moment-là. Il faut bien se rendre compte que ceci n'est pas un mirage comme nous sommes habitués. Par exemple, si vous regardez la Lune ou le Soleil lors d'un coucher ou d'un lever, vous voyez forcément ces genres d'effets qui sont produits simplement parce que vous avez une réfraction produite par l'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez un changement de la densité de l'air le long de la ligne de visée. Et donc ça produit ces effets de mirage qui font que justement la lumière ne se propage pas en ligne droite. Et vous êtes habitué à cela en regardant simplement un verre, parce que la paille, la lumière qui nous prenait la paille, doit traverser l'eau ou le verre et l'air. Et donc ça produit ce genre d'effet simplement parce qu'il y a des changements dans la densité du matériel. Donc le cas des lentilles gravitationnelles, ce n'est pas du tout cela, ce n'est pas un changement de densité. De la même façon, vous pouvez vous rappeler. Bon, alors ça, c'est un autre exemple peut-être un peu plus joli, fait par un astrophotographe iranien, Babak Tafreshi, où on regarde justement comment les étoiles sont en train de se coucher à l'horizon de la Silla au Chili. Et donc vous voyez, à part non seulement les petites perturbations dues justement aux variances de densité, vous voyez aussi que les étoiles deviennent plus rouges parce que la lumière bleue est beaucoup plus absorbée. Et ce genre d'effet de mirage est simplement produit par la variation de densité le long de la ligne de visée vers l'étoile dans l'horizon. Un autre effet, c'est lorsque vous avez, par exemple, en été, un changement de densité, de température. Par exemple, vous avez le tarmac qui est très chaud et vous avez l'air qui reste froid. Et là, encore une fois, la lumière ne va pas se propager en ligne droite, elle va faire que c'est comme ça, et donc va produire une image inversée. Donc vous voyez, par exemple, des bateaux qui sont suspendus dans l'air ou vous voyez des voitures qui sont dans des flaques d'eau qui reflètent justement ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est des mirages comme nous sommes habitués, par des changements de densité ou des changements de température. Là, les lentilles gravitationnelles, c'est un mirage produit par la déformation de l'espace-temps. Donc j'ai besoin de vous expliquer un peu ce que c'est que l'espace-temps. Donc on va faire un peu de relativité. Prenons que nous avons deux astronautes, A et B, chacune dans sa fusée. Et par rapport à la fusée A, la fusée B est en train de se déplacer vers elle. Très bien, mais si maintenant je me mets du point de vue de B, c'est l'astronaute A qui va dans le sens contraire. Donc le mouvement est relatif. On ne sait pas qui a raison. Les deux ont raison. De leur point de vue, chacun est en train de dire l'autre est en train de se déplacer à cette vitesse-là. Donc l'état de mouvement est relatif. Ça dépend de l'observatrice. Et de la même façon, l'amplitude en vitesse va être différente. Vous avez deux voitures qui se déplacent à 30 ou à 80 par rapport au sol. Le conducteur de B selon A, il va à 50 km par heure. En revanche, celui de A selon B, il va à moins 50, mais dans l'autre sens. Donc ça veut dire que deux observateurs ne peuvent pas se mettre d'accord non seulement sur l'état de mouvement, mais non plus sur la vitesse. Donc c'est extrêmement dérangeant. Est-ce que nous autres physiciens, nous ne savons pas quel état de mouvement des choses? Donc la vitesse est quelque chose de relatif, ça dépend de l'état de mouvement de l'observatrice. Donc c'est Galilée qui nous a montré comment passer d'un référentiel à un autre. Et donc, toutes les expériences qu'on peut faire dans la voiture rouge, on peut les comprendre depuis la voiture verte en faisant des transformations qu'on appelle galiléennes. Ça nous a pris du temps, parce qu'il a fallu lutter contre la physique d'Aristote, et Galilée a été donc celui qui a essuyé les plâtres pour cela, mais vous voyez bien que la vitesse est un concept donc, qui dépend de votre état de mouvement. Et c'est là où le génie d'Einstein en 1905 va montrer son exemple, c'est en 1905, il postule que la vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs. C'est n'importe quoi. On vient de voir que la vitesse est relative. Ça dépend de notre état de mouvement. Et Einstein a ce saut conceptuel majeur en disant non, il y a une vitesse qui est la même. Alors, la vitesse, c'est un rapport entre une distance et un temps. Si ce rapport-là est constant, quel que soit l'état de mouvement, ça veut dire que les distances et le temps doivent changer pour que le rapport soit toujours le même. C'est pour cela que maintenant l'espace et le temps deviennent relatifs. Alors, en réalité, l'espace et le temps sont des projections d'un nouveau concept qui s'appelle espace-temps. Et c'est plutôt cela qu'il faut comprendre. C'est une quantité donc à quatre dimensions, trois dimensions spatiales et une temporelle, qu'on appelle espace-temps. Et c'est vraiment ça le nouveau concept qu'il faut se rappeler. C'est en fait son professeur Minkowski qui l'a mis. Et une analogie que j'aime bien, c'est celle du cylindre. Si vous prenez le cylindre le long de l'axe, vous voyez un cercle. Si vous le regardez de l'autre sens, vous voyez un rectangle. Donc, selon vous projetez l'espace-temps, il va se comporter comme des propriétés de l'espace ou comme des propriétés du temps. Et c'est cela qui a complètement changé notre concept de l'espace et le temps, qui étaient à la fois séparés, comme dans le cas de Newton. Et maintenant, c'est vraiment une entité ensemble qui s'appelle espace-temps. On aurait pu l'appeler Schmilblick, ça aurait été beaucoup mieux. Mais on garde cette idée-là que selon la projection, il va se comporter d'une façon ou d'une autre. Et donc, dans ce cadre-là, d'un espace et d'un temps absolu, Newton développa la théorie de la gravitation, qui est une force. Donc, entre deux masses, la force va être proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle à la distance au carré qui les sépare. Mais maintenant, avec ce concept d'espace-temps, la révolution que fit Einstein en 1915, c'est de dire, en fait, cet espace-temps est courbé par la présence de la masse. Et donc, la gravitation n'est plus une force. Oublions l'idée que gravitation, c'est une force qui attire. C'est quelque chose, en fait, que même à l'époque de Newton, était une espèce d'action à distance. On ne comprenait pas très bien. Et donc, Einstein expliqua qu'en 1915, que la gravitation, en fait, c'est juste un effet de l'espace-temps qui est déformé par la présence de la matière. Et c'est quelque chose que, bon, cette image-là d'une espèce de membrane qui est déformée, elle n'est vraiment pas tout à fait correcte, mais essayons de voir une chose un peu plus correctement. Donc, ce que dit cette relativité générale, c'est que la gravitation, c'est donc l'expression de cette courbure de l'espace-temps. Et donc, imaginez que nous sommes, encore une fois, dans une navette, nous avons deux boules de pétanque, et nous sommes dans l'espace libre, nous ne sommes pas perturbés. Ces deux boules de pétanque vont suivre le mouvement. Donc la distance entre mes deux boules de pétanque va toujours être la même. En revanche, si je m'approche de la Terre, les deux boules de pétanque vont avoir une trajectoire et on va pouvoir mesurer qu'elles se rapprochent. On peut le voir par exemple ici, une espèce d'ascenseur qui tombe sur Terre. Vous voyez, les deux boules de pétanque n'ont plus des trajectoires parallèles, mais c'est en fait des parallèles qui vont se croiser. Et donc on peut mesurer la distance en haut de l'ascenseur ou en bas de l'ascenseur, et on va voir que la distance a séparé. Et donc, cela veut dire qu'il y a un effet, justement, de gravitation. Au lieu de ma boule de pétanque aller dans une droite sans perturbation, les deux vont suivre ce qu'on appelle les géodésiques, les distances les plus courtes entre deux points. Et donc, c'est cette courbure, cette façon que les parallèles ne sont plus parallèles, qui montre que l'espace est courbé. Et encore une fois, c'est une idée extrêmement simple à concevoir, parce qu'on le voit tous les jours. Imaginons que nous sommes sur Terre, que nous sommes sur l'équateur, ici, en ligne verte, et nous prenons un méridien. Le méridien, donc, va partir à 90 degrés de l'équateur vers le pôle Nord. Très bien. Maintenant, continuons le long de l'équateur et prenons un autre méridien. Le méridien va couper l'équateur à 90 degrés. Le méridien va continuer jusqu'au pôle Nord. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un triangle dont la somme des angles va être plus grande que 180 degrés. Rappelez-vous, à l'école, la somme des angles d'un triangle, selon Euclide, était 180 degrés. Là, nous voyons un triangle dont la somme des angles est supérieure à 180. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le cadre d'Euclide, d'un espace plat, nous avons une courbure. Si au lieu d'avoir une courbure positive comme celle de cette sphère, vous avez une selle à monter à cheval, vous verrez que la somme des angles serait plus petite que 180 degrés. Donc voilà comment, en mesurant soit des parallèles, soit des triangles, on peut savoir quelle est la courbure de l'espace sous-jacent. Et donc, qui dit courbure, veut dire forcément que les trajectoires de la lumière ne vont plus être des droites parallèles, comme on pourrait imaginer. Et donc, toute la complexité de la relativité générale, c'est de dire que l'espace-temps et la matière sont couplés. L'espace-temps indique à la matière comment elle se déplace, et la matière, elle dit comment courber l'espace-temps. Et c'est ce couplage non linéaire très compliqué qui a fait que la relativité générale a une très mauvaise réputation de théorie très compliquée. D'ailleurs, lorsque l'éclipse de 1919, les résultats furent publiés, il y a un journaliste qui demanda à Eddington, l'un des astronomes en charge de l'expédition, disant, Monsieur Eddington, professeur Eddington, est-il vrai qu'il n'y a que trois personnes au monde qui comprennent la relativité générale ? Et donc Eddington, non, ne soyez pas modeste, monsieur Eddington. Eddington répondit, non, pas du tout, j'essaie de penser qu'il est la troisième personne. Donc c'est ça, mais c'est une mauvaise réputation, parce qu'après, vous voyez que les idées sont très simples, après les détails techniques, mathématiques sont plus compliqués. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, donc, c'est que chaque masse va déformer localement l'espace-temps. Et donc ça veut dire que les rayons de lumière qui nous proviennent d'une galaxie très distante vont être totalement perturbés par la courbure locale produite par chacune des masses avant d'arriver à notre ciel observé. Donc notre ciel observé est totalement perturbé par cette trajectoire totalement biscornue suivie par les rayons de lumière. Donc prenons un exemple d'un champ de galaxies, comme celui-là à gauche, et faisons de façon artificielle, mettons, par une simulation, un amas de galaxies dans l'avant-plan. Et vous voyez tout de suite, ça c'est donc une simulation, c'est pas une observation, que ça n'a rien à voir, cette image, avec celle-ci. En fait, il y a trois effets importants des effets de lentilles produites par ces amas de galaxies. La première, c'est que vous voyez que la position a changé. Si vous prenez par exemple cette galaxie brillante à droite, elle s'est totalement déplacée. Par ailleurs, vous avez des images multiples. La grande galaxie bleue, là, elle apparaît deux fois, une à l'extérieur, l'autre plus près de l'intérieur. Et puis finalement, toutes les images ont été déformées. Donc vous voyez que l'optique gravitationnelle, c'est un casse-tête pas possible. Parce que toutes les images de nos galaxies sont totalement déformées. Il va falloir faire le problème inverse, savoir quelle est la masse, quelle est la courbure qui a pu produire ces déformations-là. C'est toute la gageure de l'optique gravitationnelle. Donc, c'est pas très... Alors, évidemment, ça, c'est une simulation. On sait ce qu'on a mis. Mais dans le ciel véritable, on ne sait pas où se trouvent nécessairement les masses qui ont produit ces déformations-là. Donc, une façon de visualiser serait, voilà, vous avez un paysage comme celui-ci. Si vous auriez une lentille gravitationnelle placée à un mètre de vous, quelle serait l'image produite ? Celle-ci. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Même le ciel bleu, il réapparaît au centre de l'image. Les tours ont été déformées. Et c'est quelque chose que vous pourrez voir après l'exposé. Vous pourrez prendre cette simulation de lentille gravitationnelle, la montrer, et selon vous pourrez la déplacer, vous verrez la déformation des images possibles. Vous pouvez prendre, ça c'est des collègues de l'Université de Liège qui l'ont produite, mais si vous cassez un verre de vin chez vous, vous pouvez le couper et vous prendre ceci, et ça sera un effet assez proche. C'est une analogie à l'effet de lentille gravitationnelle. Ce n'est pas, encore une fois, une lentille gravitationnelle parce que c'est un changement dans l'index de réfraction. Ce n'est pas un effet de gravitation. Donc, Oliver Lodge avait raison. Lorsqu'on a une lentille convexe, vous voyez bien que les rayons de lumière qui sont le plus éloignés de l'axe optique vont être plus déformés pour qu'ils arrivent à converger vers le foyer, ici. En revanche, l'analogie d'une lentille gravitationnelle, comme la coupe de vin, fait que la déflexion est de plus en plus petite, plus on s'éloigne de l'axe optique. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est un astigmatisme extrêmement fort. Alors techniquement, mais je ne veux pas montrer d'équation, cette déflexion, elle est proportionnelle à la masse et inversement proportionnelle à la distance par rapport à l'axe optique. Donc vous voyez que plus la distance est grande, plus la déflexion va être petite, et donc les rayons qui sont très éloignés de l'axe optique vont avoir un foyer beaucoup plus loin. Donc Oliver Lodge, dès 1919, se rend compte de façon qualitative que ça ne va pas être une lentille classique convergente comme nous avons, mais quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est ça qui fait qu'il est complexe dans l'imagerie gravitationnelle. Bon, ceci pour vous donner le cadre théorique. Maintenant, qu'en est-il des observations? La première observation fut celle-ci, en 1979. Des collègues aux États-Unis trouvèrent un quasar jumeau, deux quasars totalement identiques, séparés par 6 secondes d'arc. La probabilité que cela arrive, lorsque vous connaissez la population de quasars, est extrêmement faible. Et ils prirent donc un spectre des deux quasars, ils étaient absolument identiques, comme vous pouvez voir à droite. En revanche, on ne voyait pas la galaxie, on ne pouvait pas imaginer, donc, mais quand même, ils postulèrent qu'il devait y avoir une galaxie entre les deux images qui produisait cet effet de mirage. Et ce ne fut que des années plus tard qu'ils trouvèrent justement la galaxie qui produisait cette déflexion-là. Voici un autre exemple où on voit deux images du quasar. On ne voit pas vraiment la galaxie qui est en train de déflexion parce que les quasars sont beaucoup plus brillants. Et après, beaucoup plus tard, on voit effectivement qu'il y a les deux images du quasar distant et la galaxie qui fait l'effet de lentille entre les deux. Et vous voyez que la séparation des deux images est très petite, c'est 3,2 secondes d'arc. Donc c'est extrêmement petit. Et pourtant, vous pouvez le voir à l'œil. Donc c'est pour ça que c'est l'un des rares phénomènes relativistes que vous pouvez percevoir à l'œil. On verra quelques exemples dans un instant. Lorsque la masse n'est pas aussi grande qu'une galaxie, c'est une étoile, on n'arrive pas à séparer les deux images. Et c'est ce qu'on appelle les effets de micro-lentille. Donc si vous avez une étoile très très distante, très loin, qu'il y a quelque chose qui se passe entre elle et l'observatrice, vous allez avoir deux images, donc vous voyez en jaune, donc vous n'allez pas pouvoir les séparer, mais vous allez voir une augmentation de la luminosité, parce que la brillance de surface est conservée, et ce que l'on voit en fait, c'est une amplification, il n'y a pas de violation de la conservation d'énergie, simplement la lumière de l'étoile qui est derrière va être amplifiée. Donc vous voyez, par exemple, vous voyez des images de la collection Eros, le 17 juin 1999, voici un champ d'étoiles, et tout d'un coup, le 16 juin 2001, l'étoile a brillé. Alors que cette étoile-là n'avait pas changé pendant des années. Tout d'un coup, elle augmente sa luminosité, comme vous voyez ici, ça c'est la luminosité de l'étoile en fonction du temps, et elle a été constante, 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 et tout d'un coup, hop, ça monte, et hop, ça redescend. Alors, c'est une gageure, parce que la probabilité que cela arrive est de l'ordre de 1 millionième. Donc, vous devez surveiller 1 million d'étoiles pour que l'une d'entre elles fasse ce phénomène-là. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et c'est une expérience qui a été très intéressante, que les physiciens des particules ont commencé à travailler avec les astronomes, parce que c'est exactement ce qui se passe au CERN. Vous avez plein de collisions entre les particules, la plupart ne sont pas intéressantes, et une sur 10 millions, ah, celle-là a été intéressante. Là, c'est exactement pareil. Une sur 1 million ou 10 millions d'étoiles va souffrir cette amplification-là. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire qu'entre cette étoile-là et nous, il y a quelque chose qui est passé devant. Ça peut être une autre étoile, ça peut être un trou noir, ça peut être quelque chose. Et donc la caractérisation de cette courbe de lumière nous permet, si on pouvait savoir la distance, quelle est la masse de cet objet lentille qui a produit cette amplification. Qu'est-ce qui se passe si la lentille a une exoplanète? C'est une étoile. Et cette étoile-là a une planète. Eh bien, au lieu d'avoir une amplification aussi grande que produite par l'étoile, l'exoplanète, elle, va faire un petit flash, beaucoup plus court en temps, mais ça peut être aussi intense. Donc ça, c'est une simulation, et voici les observations. Vous voyez que l'étoile, pareil, était constante, tout d'un coup, elle a augmenté, augmenté, et rediminué, et pendant la phase de diminution, paf, une petite déviation produite parce qu'il y a une planète autour de l'étoile qui produit l'effet de lentille. Donc maintenant, ça, c'est l'une des méthodes pour détecter des exoplanètes. Et ça sera encore un autre sujet très vaste qui est fait aussi à l'IAP. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'être une étoile, ops, voilà, ça, c'était pas prévu. Espérons que ça marche. Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'une étoile, vous avez un trou noir? Voilà une simulation qu'a fait Alain Riazuelo, ici au deuxième étage de l'IAP. On va apparaître des images d'étoiles d'arrière-plan qui vont être imagées de façon multiple. Il y a aussi, parce que nous sommes dans un champ de courbure extrêmement fort, des anneaux multiples qui peuvent se former. C'est ça, c'est encore une fois toute une foule de phénomènes extrêmement intéressants qu'on espère pouvoir détecter éventuellement vers le trou noir central de notre galaxie. Mais sinon, dans le champ en général, c'est assez rare de voir ce genre d'effet. Si on regarde maintenant à des échelles de galaxies, voilà un champ de galaxies. Je suis en train de faire un zoom par un facteur 1000. Ça on passe des échelles d'un degré vers des échelles de quelques secondes d'arc. Et bon, vous voyez des étoiles, vous voyez des galaxies, vous voyez un peu de tout. Et rare parmi les rares, vous pouvez trouver un alignement entre galaxies qui va produire ce genre de phénomène. Et donc ça, malheureusement, on appelle ça un anneau d'Einstein. Ça veut dire que vous avez une galaxie et une autre le long d'une ligne de visée. Et lorsque donc c'est exactement la même chose, ça produit un anneau au lieu de produire plusieurs images. C'est assez rare comme phénomène, mais maintenant, par exemple, grâce à Hubble, on en trouve des dizaines et maintenant des centaines. Et avec les nouveaux télescopes que l'on est en train de faire, on va en trouver encore plus. Donc on s'attend à trouver plusieurs dizaines de milliers d'anneaux d'Einstein. Dans la deuxième partie de l'exposé, je vais montrer pourquoi il ne faut pas les appeler anneaux d'Einstein. Alors, c'est assez difficile d'observer, mais par exemple, un amateur comme Stéphane Neveu a pris un télescope de 300 mm de diamètre et il a fait l'imagerie de ce groupe d'étoiles, ce groupe de galaxies, pardon, qui produit cet effet de lentille que vous voyez ici avec des images de Hubble plus en rayon X. Donc, c'est un groupe de galaxies. Alors c'est intéressant parce que ça fait une espèce comme le chat de Cheshire, n'est-ce pas, qui fait un grand sourire. Mais voilà, l'autre, ça c'est une image professionnelle, mais les amateurs peuvent aussi détecter cela avec des télescopes tout à fait modestes. Donc voilà la relativité que vous pouvez voir à l'œil. Voilà un phénomène relativiste que vous pouvez voir, percevoir sans problème. Alors lorsque ce n'est plus des galaxies, mais des amas de galaxies, les effets sont encore plus forts. Et vous voyez la déformation qui est faite, par exemple cette galaxie rouge, elle était une galaxie compacte, mais à cause de la déflexion des galaxies de l'amas, ça produit cette déflexion énorme. Encore une fois, ça c'est une simulation, on prend des galaxies bleues d'avant-plan, les galaxies rouges d'arrière-plan, les galaxies rouges d'avant-plan, et vous voyez par exemple là, les images multiples qui se forment, des fois c'est des images en forme radiale, donc ça nous donne l'information sur la quantité de masse en fonction de la distance dans l'amas de galaxies. Donc, ces déformations des anneaux nous permettent de peser les amas de galaxies. Nous n'allons pas nous promener avec une balance, mais nous utilisons justement ces effets-là pour mesurer le rapport M sur rayon. Nous avons le rayon, donc nous pouvons en déduire la masse. Donc, c'est comme ça que l'on peut peser les galaxies, qu'on peut peser les groupes de galaxies, qu'on peut peser les amas de galaxies. Donc, chacune de ces galaxies va produire une petite déformation dans l'espace-temps. En projetant, ça fera quelque chose comme ça. Si vous avez un amas de galaxies, chacune d'entre elles va produire cela. Et donc, mon joli cahier d'écolier va être totalement déformé comme cela. Voici les mirages gravitationnels. Et donc, parfois, lorsque vous avez justement des intersections, on appelle ça des caustiques, vous allez avoir une très grande amplification. La lumière de la galaxie qui est derrière va être amplifiée. Et ceci nous permet d'utiliser les galaxies comme des télescopes gravitationnels. Alors, ça, c'est une image du James Webb. Vous voyez encore une fois la profusion d'arc partiel, de la déformation produite par la gravitation. Vous voyez, tous ces arcs-là nous permettent après de... Voilà, celle-ci, par exemple, c'est vraiment spectaculaire, nous permettent de mesurer la masse de ces galaxies. Donc, on peut utiliser les amas de galaxies comme des télescopes gravitationnels. Simplement, l'optique gravitationnelle, elle n'est pas tout à fait facile, mais on arrive à le faire. Et ce qui nous intéresse ici, c'est justement détecter des galaxies très lointaines par cet effet d'amplification. Et c'est ce qui a été fait depuis les années 90. Par exemple, ici, la galaxie qui est dans le carré blanc, alors, elle n'est pas visible en optique, mais elle est visible en infrarouge. Ça veut dire qu'elle est extrêmement lointaine, lors de redshift 10, donc l'une des premières galaxies qui a été formée. De la même façon, ici, les collègues de Jean-Paul Knebb à Toulouse à l'époque, vous voyez deux images en rouge, qui traverse une caustique, ça aussi c'est une galaxie candidate à un redshift extrêmement élevé, donc à des distances extrêmement éloignées lorsque les premières galaxies se sont formées. Alors, encore plus intéressant, vous voyez les trois images jaunes, ça c'est une étoile supernova qui a explosé dans une galaxie qui est beaucoup plus loin que l'amas de galaxies. Et donc on utilise cette supernova dans une galaxie lointaine pour observer les images multiples. Et donc, comme le chemin optique est différent, nous allons voir cette explosion d'étoiles séparée dans le temps. Donc on va voir une image, par exemple celle de gauche, qui va avoir une explosion maintenant, mais celle de droite, parce que le chemin optique va être différent, on la verra exploser au mois d'août. Et donc, encore une fois, la différence de chemin optique nous permet aussi de calculer la masse de ces amas. Encore plus rare, qu'est-ce qui se passe si vous avez trois objets alignés le long de la ligne de visée? Eh bien, c'est ce qu'a fait Raphaël Gavazzi, ici à l'IAP. C'est le seul cas que l'on connaît pour l'instant. Là, vous avez deux galaxies d'arrière-plan plus une galaxie d'avant-plan et nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux anneaux d'Einstein. L'image de droite, on l'a enlevée, on a soustrait la galaxie lentille, et vous voyez deux anneaux d'Einstein concentriques. Donc, c'est extrêmement rare, on doit encore surveiller le ciel, mais cela peut arriver. Alors, on peut même imaginer qu'est-ce qui se passe, quels sont les photons les plus distants. C'est à l'époque où l'univers devient transparent, avant il était opaque, tout d'un coup il devient transparent, c'est les premiers photons libres, ce qu'on appelle l'époque de la recombinaison, soit par un satellite américain ou soit par Planck, on peut dire, bon, et ces photons-là, forcément, ils ont dû subir un effet de lentille de malade. Depuis qu'ils ont été formés, les premiers photons libres, jusqu'à maintenant, ils ont dû traverser toutes ces masses qui se trouvent entre nous et eux. Et donc, l'effet de lentille gravitationnelle est très important pour les fluctuations du radiomonde cosmologique. Donc, tout cela pour nous dire que peut-être que l'univers lui-même peut agir comme lentille. Et ceci est basé sur le fait que la relativité générale a été testée sur des trous noirs à l'échelle des galaxies, à l'échelle des grandes structures, à l'échelle de Planck, et on dirait que la courbure de l'espace-temps, c'est plutôt assez plat, plutôt que quelque chose de comme une selle à monter à cheval ou comme une sphère. Mais la théorie d'Einstein est une théorie géométrique de l'espace-temps. Elle ne nous dit rien sur la topologie, donc la forme de l'univers. Par exemple, on peut avoir un univers comme ça. Qui nous dit que l'univers n'est pas cette forme biscornue? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait si on voit une galaxie qui nous arrive, les photons arrivent ici, peut-être qu'en réalité, elle se trouve là-bas. Donc, quel était le chemin suivi par la lumière pour arriver jusqu'à notre télescope? C'est peut-être pas trivial. Donc, ça, c'est une autre branche de l'astrophysique actuellement. Quelle est la topologie de l'univers? Peut-être que les galaxies ne sont absolument pas là où on s'attend. Mais ça, on ne sait pas. Ce n'est pas une théorie relativiste. C'est une théorie qui va au-delà de la réalité générale. Et donc, par exemple, encore une fois, Alain Riazelot, ici à l'IAP, fait des modèles d'univers dont les topologies sont loin d'être triviales, ou d'autres collègues américains, où justement on peut avoir des images multiples, même de notre propre Terre, des photons qui sont partis de l'autre sens de l'univers, qui sont revenus, et donc peuvent donner des images multiples. Bon, ceci, c'est un retour pour dire que ceci n'est pas simplement de la spéculation théorique. Vous-même, en tant que citoyen, vous pouvez participer à la recherche. Et par exemple, c'est un projet de science citoyenne, identifier des lentilles gravitationnelles dans des images profondes. C'est un projet qui a eu lieu il y a maintenant 5 ans, et on a entraîné les observateurs citoyens à classifier ces images, identifier éventuellement des lentilles gravitationnelles. Et on a trouvé plusieurs dizaines de cette façon-là. Donc, vous pouvez consulter cette page web. Elle va probablement être actualisée dans les années qui viennent parce qu'on a beaucoup d'images. On a besoin d'entraîner des ordinateurs pour l'identifier, mais l'œil humain est beaucoup plus efficace. Donc, la question que je me suis posée, c'est qui a été le premier à concevoir l'idée de mirage gravitationnel? Et si vous lisez n'importe quel article de vulgarisation, ils vont vous dire, mais c'est Newton. Non, impressionnant. Et Newton, donc cette édition, alors l'histoire de l'optique de Newton, ça passera aussi une heure pour vous expliquer les tenants et aboutissants de ce livre, traduit en français, que je vous conseille de lire. Mais à la fin du livre 2, il apparaît une série de questions, queries. Et cette query dit, est-ce que ce n'est pas vrai que les corps agissent sur la lumière à distance, un peu comme la gravitation, et est-ce que leur action n'est pas de faire, de dévier ces rayons, et ça, cette action, toutes les choses étant les mêmes par ailleurs, plus forte à la distance plus petite. Si vous rappelez la déflexion de la lumière, c'est exactement ça. Donc on se dit, ah, c'est incroyable, l'intuition de Newton. Malheureusement, c'est pris hors de contexte. Parce que ce que n'ont pas fait les collègues, c'est lire l'optique de Newton comme il faut le faire. En fait, Newton, ce qu'il est en train de faire, c'est refaire les expériences de Grimaldi de diffraction. Si vous avez, par exemple, un couteau et que vous faites passer la lumière ne va plus passer en ligne droite, elle va être diffractée. Et ça, c'est un phénomène ondulatoire. La théorie de Newton, c'est une théorie corpusculaire. C'est des rayons ou des photons qui vont passer. Et donc, des effets ondulatoires de la lumière, pour Newton, ce n'était pas possible. Et Newton, qui était évidemment un génie, mais qui avait un caractère extrêmement sombre, par ailleurs, comme personnalité, lorsqu'il était directeur de l'Hôtel de la Monnaie, il voulait assister aux pendaisons des faussaires, il a fait prostituer sa nièce, enfin, c'est un personnage extrêmement sombre, par ailleurs. Et ici, pendant son optique, il se rend compte qu'il arrive à sans issue. Et donc, il va dire, j'ai été interrompu, entre guillemets, et donc je vais laisser les choses pour que d'autres personnes puissent le faire plus tard. Totalement faux. Il est arrivé à un moment où il ne pouvait plus aller plus loin, et donc il a dit, bon. Et pour aussi la petite histoire, il avait présenté son expérience, qu'on va revenir sur du prisme, à la Royal Society, et Robert Hooke, un autre énorme scientifique de l'époque, l'avait critiqué. Et Newton l'avait extrêmement mal pris, et depuis, il n'a jamais pu montrer des expériences en public ou à la Royal Society. Et il a attendu patiemment que Robert Hooke meure pour publier son optique, en sachant qu'il n'y aurait plus personne de son niveau pour la critiquer. Donc voilà, on peut être un génie, et on peut être aussi avoir des aspects extrêmement sombres. Donc toutes les premières queries à la fin du livre 2 traite justement des effets de diffraction. Et si vous les prenez en dehors du contexte, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Par exemple, la query numéro 3, est-ce qu'en passant par les bords, est-ce que ça fait comme un mouvement d'anguille? Si vous êtes la query 5, est-ce que la lumière, les corps agissent l'un sur l'autre? Mais ça peut être l'effet photoélectrique, vous pouvez dire qu'il a commencé à penser à l'effet quantique. Non. Laissons les choses dans son contexte. Il est en train de parler de la diffraction. Donc, ce n'est certainement pas Newton. En fait, pendant tout le XVIIIe siècle, il y a énormément de discussions, et je vais en parler, mais je voulais savoir quel était le premier coupable à dire que Newton avait réfléchi à cela, parce qu'il avait vraiment mal lu l'optique. Et donc, j'ai trouvé, c'était vraiment un travail de détective, j'ai trouvé l'endroit, c'était un meeting entre la Société astronomique royale et l'Académie des sciences de Londres. J'ai trouvé la date, le 6 novembre 1919. Et la raison de ce meeting, c'était justement discuter l'éclipse de 1919. Et celui qui a prononcé cette phrase, c'est Lord Thomson, le prix Nobel pour avoir découvert l'électron. Ça, c'était le portrait de Newton qui présidait la séance. Et donc, Newton disait, bon, effectivement, si les résultats auraient été juste la moitié, ça aurait été très important, comme en fait Newton l'avait vraiment réfléchi pendant cette première query de l'optique. Faux. Mais le problème, c'est que les astronomes ou les scientifiques ne vont pas regarder les sources primaires. Et donc, si M. Thomson, prix Nobel, l'a dit, tout le monde va répéter cela comme perroquet. Il faut retourner aux sources primaires. Et donc, vous retrouvez dans beaucoup de livres d'astrophysique, « Ah, c'est Newton qui a réfléchi le premier en physique nucléaire. » Faux. Et donc, comme je disais, au XVIIIe siècle, on a beaucoup parlé sur d'étudier la relation entre la lumière et la matière. Et même Voltaire a commis des œuvres sur cela, Clairaut. Et Ezra Vincent, un des grands physiciens de l'époque, disait par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas les rayons qui sont poussés par une certaine force vers les corps et qui sont attirés par ces corps? Il y a un excellent article de Eisenstein sur ces approches, il y a encore beaucoup à explorer, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout anathème à l'époque. Mais en général, on parlait donc de cette diffraction comme inflexion des rayons de lumière. Et par exemple, Priestley, celui qui a découvert l'oxygène, il a fait une encyclopédie sur l'électricité, mais aussi une encyclopédie sur l'optique. Elle parle justement des rayons inflectés. Et voilà, les foreigners, les étrangers, appellent ça diffraction. Donc il n'y a aucun doute que c'est un effet qui n'a rien à voir avec la gravitation. Et donc, l'une des premières surprises de cette conférence va être que le premier qui a réfléchi à cela, c'est quelqu'un à qui vous ne vous attendez absolument pas, c'est M. Jean-Paul Marat. Oui, Jean-Paul Marat, dont la légende noire a été propagée au XIXe siècle, et c'est totalement injuste, Marat est rentré au Panthéon, il devrait revenir au Panthéon. plus je lis Marat, plus je l'admire. Donc, je vais essayer de corriger les mauvaises impressions de la contre-révolution bourgeoise du XIXe siècle contre Marat. D'abord, Marat était un scientifique, c'était un médecin. Il a son titre, son diplôme de St. Andrews en Écosse. Et, il était très actif politiquement en Angleterre, au point où il a dû sortir, expulsé, et rentrer au service du comte d'Artois, le frère du roi de l'époque. Et ses connaissances de médecine étaient telles que, justement, il avait une très bonne clientèle, il est devenu assez riche, et donc il a pu construire des instruments. Il a commencé à expérimenter sur le phlogiste à l'époque, Lavoisier est passé, heureusement, pour cela, sur l'électricité, l'abbé Nollet faisait beaucoup d'expériences, et aussi en optique. Ça a été le deuxième traducteur de l'optique de Newton en français. Et c'est pour ça qu'il connaît très bien l'optique de Newton. En fait, la traduction de Newton par Marat est extrêmement fidèle au texte original anglais. Et évidemment, il était dans l'ambiance scientifique de l'époque. Et par exemple, l'une des expériences qu'il démontre dans certains de ses livres, c'est avec Benjamin Franklin, qui était chauve, il ne portait pas de perruque. Il essaie quelques rayons de lumière sur le crâne chauve de Benjamin Franklin, vous voyez les émanations. Enfin, il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui n'étaient pas très très bonnes, mais c'était l'un des scientifiques normaux de l'époque. Par contre, avec Lavoisier, le fermier général, les relations étaient très mauvaises, parce qu'en plus, il était à l'Académie des sciences. Et Marat voulait être membre de l'Académie des sciences, en tout cas, pas de Paris ou plutôt de province. Et donc voilà quelques-unes des expériences qu'il menait dans certains de ses livres. Il a publié un nombre significatif d'expériences d'électricité, de feu, d'optique. Et ici, je vais me concentrer sur son traité de 1780, l'expérience sur la lumière, qui ont été faites un très grand nombre de fois aux yeux des commissaires de l'Académie des sciences. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va faire son expérience et après raconter cela. Non, il faisait l'expérience en public et vérifiée par les membres de l'Académie des sciences. Et la clé de Marat a été de faire l'expérience du prisme de Newton avec beaucoup plus de précision. Donc, vous vous rappelez, Newton dit, nous avons le prisme, la lumière blanche arrive, elle est décomposée par réfraction, et donc en sortie, nous avons les rayons bleus, les rayons violets. Marat est beaucoup plus soigneux que Newton, et donc il met une fente avant que la lumière arrive sur le prisme. Et ce qu'il observe, c'est qu'il y a déjà une diffraction, et donc c'est normal qu'il y ait des rayons rouges et bleus qui sortent, parce que dès qu'ils arrivent, ils ont un angle d'incidence différent. Donc, c'est normal, et donc, il critique Newton, mais évidemment, critiquer Newton à l'époque, c'est extrêmement dangereux, surtout aux yeux de l'Académie des sciences. Et il commence à faire des expériences donc, que j'ai reproduites moi-même, en disant, par exemple, les corps connus décomposent la lumière, la sphère d'attraction dépend de la densité superficielle, on ne peut pas retrouver ce résultat-là, d'un facteur d'affinité, entre guillemets, la constante de gravitation, non, et en révérence du réseau inverse de la distance, non plus. Mais en tout cas, il essaye de formaliser cela avec les mesures, et vous pouvez lire ses livres sur Gallica en particulier. Donc, Marat, évidemment, a eu le déshonneur au XIXe siècle d'être totalement oublié, sa mémoire salie, mais il a eu une influence énorme sur l'optique de Goethe, qui, à part d'être un très grand intellectuel et poète, était aussi un scientifique. Il a commis un livre sur la théorie des couleurs, où il cite Marat de façon explicite. Donc, revenons à l'effet de gravitation, parce que tout ceci n'est pas évidemment gravitation, mais l'influence de la matière sur la lumière. Et le premier calcul qui est qui est correct, est celui de Cavendish, sauf que c'est un manuscrit qui n'a jamais été publié. Et voilà le problème que se met Cavendish. Cavendish, monsieur qui a fait avec sa balance peser la Terre, mesurer la constante de gravitation pour la première fois, il dit « trouver la perturbation d'un rayon de lumière qui passe près de la surface d'un corps par l'attraction de ce corps. » Et donc, lorsqu'on voit ça, c'est totalement cryptique. Bon, il faut trouver un peu de mathématiques de l'époque pour le refaire. Et donc, je vais vous passer, parce qu'on ne va pas faire les équations, mais ce qu'il fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il prend que la trajectoire des rayons de lumière va être une hyperbole, et il prend la vitesse de la lumière à l'infini comme les conditions qu'il faut. Et donc, il retrouve, justement, la déflexion des rayons. Et en termes modernes, c'est exactement ce que l'on retrouve. Donc le calcul est correct, mais il n'est pas publié. Il a été retrouvé dans les papiers par ses descendants au début du XXe siècle. Le premier calcul qui est publié est faux. Et il est commis par Sollner, qui est très connu en géodésie, qui est directeur observatoire de Munich. Il s'intéressait à la cinématique des étoiles, aux objets de Michel Laplace, ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs. Et il commit en 1801 un article très intéressant, dont je traduis ici en français, c'est « Quelle est la déflexion produite par les étoiles le long de la ligne de visée ?» Il voulait savoir quelle était la vraie position des étoiles, pas perturbée par les étoiles le long de la ligne de visée. Et donc c'est un article qui est très difficile à lire, la notation confuse, par exemple l'accélération, c'est l'espace divisé par le temps au carré. Il oublie un facteur 2, mais qui compense parce qu'il se trompe deux fois et donc l'erreur se compense. Mais conceptuellement, le calcul est faux. Parce que contrairement à Cavendish, il ne prend pas en compte l'accélération de la lumière dans le cadre newtonien. Donc un photon, un rayon de lumière va être accéléré en s'allégrant du Soleil. Et en fait, au premier ordre, c'est la même chose. Donc le résultat, pratiquement la même chose. Mais quand il dit, bon, comme le résultat va être de l'ordre du second arc, pour l'état actuel de l'astronomie, ceci n'a aucun intérêt. Bon, mais sauf que conceptuellement, le calcul est faux. Mais c'est le premier qui est publié. Le deuxième calcul qui est publié, c'est Einstein, 1911. Et c'est une application simple, mais fausse, du principe d'équivalence. Donc ça ne reviendrait trop tard, mais il retrouve le résultat de Sollner ou de Cavendish en disant la prédiction, c'est que pendant un éclipse de soleil, la position des étoiles va être légèrement séparée de 0,83 secondes d'arc par rapport à la position des étoiles lorsque le soleil n'est pas le long de la ligne de visée. Et à l'époque, Einstein avait un poste à l'université Charles de Prague. Il allait à Potsdam retrouver sa maîtresse et en étant nommé un peu plus tard à l'Académie des sciences de Prusse à Berlin, il a eu l'argent pour payer, financer l'expédition de Freundlich pour observer l'éclipse du 21 août 1914. Manque de bol, le 1er août, la guerre est déclarée, l'expédition allemande est capturée par les Russes et comme espion, et donc Erwin Freundlich ne pourra jamais observer l'éclipse de 1914. Alors, pendant que il faisait les trajets de train entre Prague et Berlin. On a retrouvé dans ses cahiers l'adresse de la blanchisserie, parce que quand même, il allait voir sa nana. Et voilà les premiers sketchs de l'effet de lentille. Donc ça, c'est dans les cahiers qui sont gardés en Israël. Et voilà la position des étoiles, l'amplification, tout cela est parfaitement correct. Et il oublie totalement. Donc, dans ses cahiers, il avait plein d'annotations. Bon. Et des collègues allemands ont commencé à regarder pourquoi il avait fait ce calcul. Et on pense que c'est parce qu'en 1912, il y a eu cette explosion qu'on appelle la nova dans la constellation des Gémeaux qui a fait cela. Et Einstein a peut-être réfléchi que cette explosion-là, cette espèce de décroissance de lumière, peut-être était due à un effet de lentille. Mais il n'a jamais rien publié. Et il a complètement oublié cela. Donc, c'est l'un des mystères qu'on a trouvé. Alors, un autre personnage arrive, c'est un professeur de physique à Saint-Pétersbourg, à Petrograd à l'époque, Horace Scholson, qui a fait un traité monumental de physique en 15 volumes. C'est vraiment encyclopédique, c'est toute la physique qu'on peut imaginer jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc en russe, il a été traduit en allemand, en français, en espagnol. Et c'est le livre de chevet que Fermi avait utilisé avant d'entrer à l'université. Pour vous dire que c'est vraiment la somme. Et donc il était tout à fait à la page des développements en physique quantique et en relativité. Et c'était un physicien. Et il a, en fait, on n'a pas beaucoup vu d'expérience de lui, mais il envoie un article en astronomie, au journal astronomique allemand, sur une possible forme d'étoile double fausse, fictive. Et donc, il fait un petit calcul tout simple, 1924, en disant, bon, et peut-être que justement, on va voir cet effet de lentille parce qu'il va y avoir cette déflexion. Et éventuellement, si TAB sont juste en ligne, ça va faire un anneau. Mais à quel point ceci peut être observé comme une fausse étoile double, je ne peux pas le dire. Bon. Et donc, pour vous dire qu'Einstein avait totalement oublié son calcul, ça c'est 1924, les calculs c'était 1911, dans la même page que l'article de Scholson, apparaît un article d'Einstein sur la théorie de l'électron d'Anderson. Donc, si Einstein aurait vu les épreuves de son article dans la revue publiée, il s'est rendu compte, il me dit, oui, effectivement, j'ai fait ça et je l'ai déjà calculé. Non, il a totalement oublié. Il n'a même pas revu où son article, enfin sa réponse à l'article d'Anderson avait été publiée. Donc, le vrai pionnier, celui qui a vraiment calculé et qui a eu la vision du mirage fractionnel, c'est quelqu'un qui s'appelle František Link, qui évidemment est absolument inconnu au bataillon, sauf si vraiment vous faites des recherches comme je l'ai fait. Donc c'est quelqu'un tchèque, il est né à Brno, il était postdoc au Public du Midi à Lyon, il est après devenu professeur justement à l'Université Charles à Prague. C'était le fondateur du journal tchèque d'astrophysique et il était ici à l'IAP au premier étage pendant de très nombreuses années, depuis les années 30 jusqu'à la fin des années 70. Et les anciens de l'IAP en fait, me racontaient que c'était un personnage extrêmement sec, qui ne souriait jamais, contrairement à cette photo, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Et il a fait beaucoup de choses sur la haute atmosphère, sur les éclipses de lune en particulier, et donc il a écrit un livre phénoménal, publié par Springer en 69, qui s'appelle « Phénomène d'éclipse en astronomie ». Et le dernier chapitre de ce livre, c'est justement des éclipses relativistes, où il fait le sommaire de ce qu'on connaissait à l'époque. Et grâce aux archives de l'IAP, qui sont conservées ici, j'ai pu trouver que justement des annotations de Link sur le livre d'Eddington, sur la théorie relativiste de mathématiques, un livre extrêmement compliqué, même pour l'époque, et même maintenant. Le 16 mars 1936, Charles Fabry, le fameux académicien français, présente cette note de Link en disant « Quelles sont les conséquences photométriques de la déviation d'Einstein ?» Parce que c'est un calcul qu'a fait Link en disant ben « voilà, le calcul va être contraint K sur M, la déviation va être l'intensité qui va changer, donc c'est le cas analogue à ce qu'on considère dans la théorie des occultations par les planètes et dans la théorie des éclipses. » C'est-à-dire qu'il fait l'analogie avec la réfraction atmosphérique. Formellement, on peut trouver que l'équation des rayons qui déviaient par un gradient de densité peut être un peu semblable à cela. Donc, il retrouve les équations que Einstein avait trouvées sans les publier. Mais comme c'est un astronome, il dit, de tels rapprochements optiques seront sans doute très rares, sauf dans des certaines régions du ciel, en particulier dans les nébuleuses spirales, parce que c'est là où il y a le plus d'étoiles. Donc, la probabilité d'observer ce genre de phénomène sera plus élevée et la masse sera plus élevée. Donc cet article n'est jamais cité, peut-être parce qu'il est écrit en français et que la littérature est dominée par les anglo-saxons. Et c'est par contre le premier calcul correct des effets de l'antigravitationnel. Donc je vous enjoins, bon, c'est un article un peu technique, mais le calcul est parfaitement correct. Et il va continuer, en 1937, il va faire cet article énorme sur toutes les conséquences possibles et imaginables. Il va faire le premier diagramme d'optique gravitationnelle publié. Il va faire les premiers calculs de la forme des images, comme on l'a vu après sur les images que vous avez vues, les petits arclettes ou même les anneaux qu'on appelle maintenant d'Einstein. Donc tout est fait dans cet article 1937, pareil, écrit en français, jamais cité par qui que ce soit. Et c'est grave parce qu'en science, on veut citer les premiers qui ont eu l'idée. Donc on reviendra sur cela. Donc la réalité de ce phénomène, il conclut l'article, dépend de la validité de la théorie d'Einstein. Donc c'était aussi un test. Si on n'arrive pas à détecter les effets de l'antigravitationnel, est-ce que la théorie d'Einstein est correcte? Donc il a commencé à regarder cela, il a publié, donc ça c'était les seuls articles de l'époque, il connaissait l'article de Colson, Eddington aussi avait réfléchi à cela, il cite l'édition allemande et non pas l'anglaise, et c'est fini. Donc il cite un article de compte-rendu de 1936, du 16 mars. C'est une date importante parce que ici, ce scientifique eut la première révélation de comment calculer cet effet-là. Donc, après d'autres années, il a publié d'autres tables sur la déviation, etc. Ça, c'est une conférence qu'il a tenue ici même, dans cet amphithéâtre, le 7 mars 1961. Donc, vous voyez que c'est une longue histoire et l'IAP a eu un rôle majeur. À l'époque, vous voyez, il y avait un résumé en anglais et un résumé en russe. Mais c'est le seul article en anglais qu'il publiait, les autres étaient en français. Et comme c'était un astronome, il voulait absolument trouver justement un exemple de cela. Et il trouva cela. Alors ça, c'est les plaques photo de l'époque, où on parle des années 40, années 50, extrêmement difficile à trouver. C'était très bien vu, parce que ce n'est pas une nébuleuse planétaire. C'est ceci. Ça, c'est l'image avec Hubble de son candidat. Alors, manque de bol, c'est presque ce qu'il fallait. Alors, une chose, c'est que l'échelle est énorme, 30 secondes d'arc, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas une lentille gravitationnelle parce que les deux galaxies, la rouge et la bleue, sont à la même distance. Si c'était un effet de lentille gravitationnelle, comme on vient de voir, la galaxie rouge serait plus proche et la galaxie bleue serait déformée, serait beaucoup plus loin. Là, c'est en fait une galaxie bleue qui est en train de tomber sur la galaxie rouge et en train de former cet anneau-là. Mais c'était très bien vu. Mais ce n'est pas une lentille. Donc maintenant, comme je vais vous montrer, on a trouvé des dizaines, des centaines, où là, l'arc bleu a une distance beaucoup plus grande que la galaxie rouge. Donc ça, c'est vraiment des cas de lentilles. Un autre personnage intéressant, c'est Grabitrikov. C'est quelqu'un qui a fait sa thèse à Janssen, avec Janssen à Meudon, donc beaucoup en physique solaire. En 1937, il prétend avoir eu l'idée l'été 1935. Alors, simplement, c'est une question qu'il voulait avoir la précédence par rapport à Link. Alors, il y a eu des problèmes à Moscou, éventuellement il fut exilé à Manhattan, et il créa l'Institut d'astrobotanique, pour le faire, dans les années 30. Et vous avez un article de Daniel Briot qui vous explique cela, mais voilà l'expérience qu'il faisait à l'époque pour essayer de voir si on peut détecter, par exemple, la chlorophylle dans sur Mars ou sur Vénus. Donc, ses œuvres ont été même traduites en français, donc c'est tout un personnage. Donc, effectivement, en 1937, il publie un article dans la revue russe, en français, et en disant, à la fin de 1935, que j'ai déjà résolu la géométrie du problème. En fait, c'est totalement faux, parce qu'il utilise la théorie de Newton, et non pas la théorie relativiste. Donc, il y a quelque chose de vraiment très bizarre. Il publiera un peu en 1938 la même chose, dans le bulletin La Poulkovo, et maintenant, il dit, c'est l'été 1935. Donc, c'est... Non, après, ce sera son étudiant qui fera tout le calcul correctement dans le cadre relativiste, comme Link l'avait déjà fait. Mais ceci n'a pas échappé, évidemment, aux astronomes soviétiques. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, il faut dire que les choses bougeaient aussi. Et là, il y a un autre personnage extrêmement bizarre qui apparaît, c'est Romer Mandl. C'était un ingénieur tchèque, comme quoi les Tchèques ont eu vraiment des idées de génie. Robert Mandl va à New York, demande une bourse à l'Académie des sciences de New York pour lui payer le voyage en train de New York à Princeton. Et je ne sais pas comment, il réussit à avoir cette bourse. Et donc, il visite Einstein chez lui à Princeton. Et il lui explique qu'il doit y avoir un effet de lentille, et l'effet de lentille doit produire des nébuleuses, les nébuleuses planétaires, et il doit accélérer les rayons cosmiques, qui venaient d'être découverts par Ballon, par Hess. Et en plus, ça doit causer l'extinction des dinosaures, parce que lorsqu'il y a des éclipses stellaires, eh bien, justement, la lumière est accélérée, et donc ça tue les dinosaures. Alors, vous pouvez imaginer la tête que dut faire Einstein en recevant ce personnage. Ce personnage finit dans un restaurant à laver des plats, finit sa vie à Los Angeles. Enfin, c'est tout un roman, c'est incroyable. Mais il réussit à convaincre Einstein de faire le calcul. Et Einstein, voilà, le 2 juin 1936, refait ses calculs. Il avait totalement oublié ses cahiers de 1912. Et bon, fait tous ses calculs. Mais à la fin, il répond donc à Robert Mandl en disant « Oui, bon, c'est très intéressant, mais le phénomène ne va pas être observable, donc je ne veux pas publier cela. » Mais Mandl va insister, et finalement, Einstein a écrit à la revue Science en disant, voilà, il y a quelques temps, et M. Mandl m'a visité, il m'a demandé de publier ce petit calcul, cette note, voilà, accède à son souhait. Et Einstein donc publie cela, tout à fait correct, et notez la date, décembre 1936, c'est-à-dire 7 mois après le calcul de Link, la publication de Link. Et pour une fois, Einstein, qui était un visionnaire absolu, il sera très pessimiste en disant « Bon, il n'y a aucune chance ou pas grande chance d'observer ce phénomène, même si la lumière d'une étoile est en train de blablabla. » Donc, et c'est ça, on reviendra sur cela, c'est l'un des mystères d'Einstein qui était tellement en avance de son temps. Là, peut-être c'est l'influence de cet individu, il était extrêmement pessimiste. Mais cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et à côté, il y avait Russell. Russell, c'est l'un des requins de l'astrophysique américaine. C'est quelqu'un qui a volé des idées à presque tous les astronomes européens. Par exemple, vous avez le théorème de Vogt de Russell qui décrit les équations de la structure interne des étoiles. C'est M. Vogt qui a fait tous les calculs. Russell n'a fait que les copier. Ou le diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est Hertzsprung qui a fait tous les calculs, toutes les mesures, et Russell qui après, en fait, a complètement... Enfin, c'est une autre histoire que je peux vous raconter, mais, enfin... mais donc, tout de suite, il fait un calcul... Il publie, non pas dans une revue professionnelle, mais dans Scientific American, donc pour la science. Donc, une revue de divulgation. Et il fait ce sketch qui n'est même pas approxé. Donc, à quel point il n'avait pas reçu l'article de Link par ailleurs, on ne peut pas le savoir. Mais ce calcul est totalement faux, parce qu'il suppose qu'il y a une naine blanche, etc. Mais enfin, il essaye quand même, encore une fois, de s'attribuer les idées. Et notre personnage intéressant, c'est Fred Zwicky. Lui, c'était la côte ouest américaine. Et là, c'est quelque chose d'autre. C'est encore M. Mandel qui est ici, est allé voir M. Vladimir Zorykin. Alors, Zorykin, c'est l'inventeur de la télévision. Donc, le tube cathodique avec la transmission, c'est lui. Et Mandel était en contact avec lui, on ne sait pas pourquoi. Et Zorykin était en contact avec Zwicky parce que tous les deux étaient en Californie. Donc, on veut dire que Mandel a essayé de trouver plein de personnes pour le convaincre. Et Zwicky, qui était un excellent observateur, a fait un petit calcul tout simple, mais aucune prédiction quantitative. Il dit non, ça, je vais le publier en détail dans un article dans la revue suisse. Cet article ne sera jamais publié. Mais, comme c'est publié dans une revue américaine, tous les anglo-saxons vont citer Zwicky comme le premier à avoir eu l'idée que les nébuleuses peuvent être des lentilles gravitationnelles. Faux. Link l'avait déjà dit. Donc, après, bon, je peux vous parler un peu des histoires dans la partie soviétique, mais ce qui était intéressant, c'est que dans les années 50, ça a été totalement discontinué. Chandrasekhar disait justement, de 36 à 61, il n'y avait aucun cours de réalité générale. Ça avait totalement disparu. La mauvaise réputation, manque d'intérêt. Après, les années 60 ont été vraiment à la Renaissance. Il y a George Darwin, le fils du naturaliste, qui a fait aussi un calcul qui s'est révélé faux. Enfin, c'est toute une histoire intéressante. Donc, je vais aller un peu plus vite. L'année charnière a été 63-64, où à la fois les Soviétiques, comme les Américains et les Européens, ont commencé à développer ces idées plus en détail sur les galaxies, sur les amas, etc. Même si, par exemple, Metzner disait bon, bien, les calculs montrent que c'est plus ou moins irrélevant pour l'astronomie. Donc, un manque de vision totale. Et par exemple, voilà, ça, c'est d'autres calculs faits par les Soviétiques. Libes à Princeton fait une revue, c'est le premier article de revue, c'est-à-dire qu'il passe en perspective tous, et donc les étoiles, les effets de lentilles par les étoiles, par les amas globulaires, par les galaxies d'M31, par les ondes gravitationnelles. C'est impressionnant, mais c'est tombé totalement dans l'oubli. Donc cet article-là est remarquable à cet effet, et ne cite pas évidemment Link. Et puis après, Refsdahl. Bon, encore une fois, je vais passer parce que je suis en train de passer un peu trop de temps sur cela, mais je veux finir sur quelque chose de très important du point de vue sociologique. Et c'est le chapitre censuré d'une thèse de doctorat. Il se trouve que Maria Petrou était une étudiante grecque qui faisait sa thèse à Cambridge sur la dynamique des étoiles dans les galaxies elliptiques. Et en 1980, donc dirigée par Donald Lindenbell, qui est probablement le meilleur astrophysicien de la deuxième moitié du XXe siècle, elle a l'idée de calculer l'effet de lentille si, à l'époque, on pensait que la matière noire était dans des objets compacts, dans le halo de notre galaxie. Et donc, elle se pose la question, si ces objets sont compacts et qu'on regarde des étoiles dans les nuages de Magellan, ils vont souffrir un effet de micro-lentille gravitationnelle, comme j'ai montré au début. Et donc, elle calcule tout cela. Voici son chapitre 7 de sa thèse. Elle calcule que la probabilité va être de l'ordre de 3 quarts de 10 moins 8. Donc, il faut mesurer 100 millions d'étoiles pour en trouver quelques-unes qui vont trouver cela. C'est extrêmement rare. Mais, encore une fois, comme elle était astrophysicienne, elle dit, bon, ça peut être difficile à trouver, mais on va pouvoir les distinguer des étoiles qui varient, parce que la plupart des étoiles changent de lumière de façon plus ou moins périodique ou pas, parce que celles-là, les lumières en rouge et en bleu, vont avoir exactement la même forme. En général, les autres étoiles variables n'auront pas des formes identiques. Et donc, cela peut être très, très intéressant pour justement contraindre la matière noire dans notre galaxie. Et bien, Lindenbell, son patron de thèse, qui était aussi un visionnaire incroyable, lui interdit de publier ce chapitre-là. Tous les autres chapitres de sa thèse sont publiés comme articles, mais pas celui-là. Et donc, la question qui se pose, c'est que plus tard, Lindenbell fera amende honorable publiquement en disant que ce fut une grande erreur. Maria Petrou abandonna l'astrophysique, c'était l'époque Thatcher, il y avait très peu de postes d'astronomie à l'époque, passa un temps en météorologie, puis en traitement du signal. Et malheureusement, elle est décédée avant que je sache justement un peu plus d'elle, son mari aussi. Donc, j'essaye d'interagir avec son fils, mais il n'est pas vraiment très intéressé. Et donc, c'est très difficile à savoir comment elle a vécu cela. Donc, Alors, il y a d'autres aspects philosophiques, mais je vais pas avoir le temps parce que je suis en train de passer. Donc, je vais faire un sommaire très rapide. Du point de vue donc, de l'épistémologie, vous voyez bien que même si beaucoup de scientifiques vous répètent à sa cité que c'est Newton le premier à avoir réfléchi, pas du tout, allez aux sources primaires. Je vous recommande de lire le livre d'optique de Newton, « Refaire l'expérience du prisme », c'est absolument merveilleux. Solner, le calcul était faux, mais il a été publié, contrairement à celui de Cavendish. Donc, Frantisek ou François Link fut vraiment le vrai pionnier de cette recherche, avec la bonne vision, les calculs corrects, mais pourtant il n'est jamais cité. Et le mystère Einstein, pour une fois, Einstein qui était un visionnaire absolu, était totalement pessimiste. Évidemment, il ne verra pas la première détection, comme on l'a vu, c'était en 1979. Et on voit aussi des aspects sociologiques intéressants en tirant cela. Zwicky est cité partout comme le pionnier, Link, parce qu'il peut-être l'a publié en français, peut-être parce qu'il était tchèque, il n'est jamais cité. Donc ce qui serait juste, c'est de ne pas parler d'anneau d'Einstein, mais d'anneau de Cholson, Link, Einstein, au minimum. Cholson, parce que c'est le premier à avoir l'idée qualitative, Link à faire le calcul quantitatif, et Einstein, parce que c'est le gros poisson avec qui tout le monde le fait. Puis après, bon, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, mon seul conseil, c'est vous avez un calcul, vous le publiez, même si votre directeur de thèse refuse. C'est très important. Après, l'article va être jugé par les pairs, de toute façon. Donc, c'est de la communauté générale qui va juger la validité de votre calcul ou pas. Mais ayez le courage, si vous êtes certain de votre calcul, de publier, malgré les conseils autres que votre directeur. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois que vous verrez le ciel étoilé, pour revenir tout à fait au début de cet exposé, vous pourrez réfléchir à toutes ces issues conceptuelles, sociologiques, philosophiques, historiques. Et donc j'espère, comme disait le poète Milton, ne peut-être pas avoir porté trop de lumière, mais au moins avoir révélé un peu de l'obscurité. Je vous remercie. Donc, je vous invite après à manipuler avec soin cette analogie de l'antigravitationnel pour constater vous-même comment les images se forment.
Merci beaucoup, David. J'ai appris plein de choses. Voilà, c'est ce qui est bien quand on organise des conférences, c'est qu'on en sort plus avant qu'on y est entré. Et j'espère que pour vous aussi. Donc, les questions, d'abord, il n'y en a pas encore dans le chat, donc je vais passer le micro dans la salle. Qui a des questions à poser? Je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Personne n'ose, c'est pas possible, voilà.
Merci. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, je suis juste un curieux. Mais quand vous avez parlé de Link et que vous avez montré qu'il cherchait un peu désespérément un exemple concret sur ses plaques photographiques, je me suis dit, mais si je comprends bien, la quantité de masse en fait, va déterminer la courbure et la résolution de ses plaques photographiques n'était pas du tout satisfaisante pour qu'il puisse trouver quoi que ce soit. Donc est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il aurait pu calculer qu'il ne pouvait pas trouver?
Si, bon, il faut détromper les plaques photo. Avait une très bonne précision. Par exemple, l'éclipse de Soleil, on arrivait à mesurer justement des déplacements de moins d'une seconde d'arc. Donc tout dépendait justement de la qualité de l'optique. Donc c'est vrai qu'après, les grains photo étaient très gros, c'était difficile, mais ce qui était un peu rédhibitoire, c'est qu'il y avait à l'époque il n'y avait pas de filtre, donc c'était la réponse de la plaque photo qui était très très large, et donc on ne pouvait pas voir si c'était bleu, si c'était rouge. Mais effectivement, il y avait des nébuleuses planétaires qui étaient plus petites que 30 secondes d'arc et qui étaient identifiées dans les plaques photo. Le problème, c'était de mesurer après les distances et trouver qu'il y avait un objet d'avant-plan et un autre d'arrière-plan. Et ça, à l'époque, c'était extrêmement difficile. Zwicky aurait pu le faire. Parce que lui avait accès au meilleur télescope en Californie. Mais Link en Europe, non.
D'autres questions? Oui.
Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus sur l'état de l'art actuel dans la reconstitution des images de ces lentilles obtenues par lentilles gravitationnelles?
Vous disposez de combien d'heures? Non, c'est très simple. Alors, il faut distinguer deux régimes. Le régime de lentilles faibles, où là, on regarde même pas la déformation, mais ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que vous voyez que la plupart des images ont une déformation tangentielle. Si vous avez une masse dans les amas, vous voyez que la plupart des images sont plutôt déformées tangentiellement. Donc, on regarde statistiquement cette polarisation des images pour reconstruire la matière qui est en train de produire cela. Donc ça, c'est par exemple l'état de l'art, ça va être Euclide, un satellite qui va être lancé cet été et qui va regarder une grande partie du ciel pour la mesure justement de cette déformation faible. Et cela va nous permettre, entre autres, de mesurer le taux d'expansion de l'univers, enfin beaucoup d'autres choses, en plus de la matière. Après, il y a les effets donc forts lorsqu'il y a des images multiples. Et là, il y a plusieurs codes différents qui nous permettent, à partir des pixels des images observées, reconstruire quelle est la véritable forme de l'étoile, de la galaxie, avant qu'elle soit déformée par l'effet de lentille. Et donc, c'est des codes de calcul inverse. Et plus on a des images multiples de la même galaxie, mieux on peut contraindre la forme de la galaxie initiale. Donc, lorsque nous avons une image très brillante et l'autre est pas assez brillante, la contrainte est beaucoup moins forte. Mais on arrive à distinguer, par exemple, les bulbes et les disques des galaxies beaucoup plus lointaines. Et lorsqu'on a des supernovas, c'est encore mieux, parce qu'on a trois lignes de visée séparées, et donc on peut contraindre encore mieux. Voilà, alors il y a plusieurs logiciels différents en compétition parce que chacun apporte des améliorations différentes. Et donc ce qu'ont fait les collègues il y a quelques années, c'est faire un test en aveugle. Donc quelqu'un faisait des simulations sans dire quelle était la description de matière ni la forme des images initiales, et c'était aux différents codes de donner les résultats. Et après, ils ont fait l'intercomparaison pour voir quels étaient les codes qui fonctionnaient le mieux. Et donc, ça a permis de comprendre les biais que chacun des codes pouvait avoir. Donc là, on est vraiment à une phase où, avec ce qui importe le plus, c'est en fait la résolution spatiale. Donc, c'est pour ça que les images de Hubble, ou maintenant de James Webb, sont tellement importantes, et d'avoir le plus de pixels possible pour bien contraindre les images observées. Et ça, c'est la clé.
Il y avait une question par là, de même.
Du coup, moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris si la courbure des rayons lumineux dépendait ou non de la longueur d'onde.
Ah, c'est une très bonne question. Non. Les rayons bleus et les rayons rouges suivent les mêmes géodésiques. D'accord ? Et ça, quelle que soit l'échelle, ça peut être une très petite échelle, comme des étoiles ou des galaxies, on suit exactement la même trajectoire. Donc il n'y a pas d'effet chromatique. Il y a des effets chromatiques lorsque la source n'est plus ponctuelle. Lorsque, par exemple, le rayon d'Einstein est de l'ordre de la taille de la source angulaire, là, il faut prendre en compte la distribution de lumière de l'étoile, et là, il peut y avoir des effets chromatiques. Mais c'est extrêmement. C'est bien parce que je l'ai prédit en 87 et ça a été détecté en 2005. Mais ce n'est pas un effet des géodésiques, mais simplement parce que la structure même de la source est chromatique. Ou par exemple, lorsqu'on regarde les noyaux actifs de galaxies, selon la longueur d'onde, ils vont avoir une forme différente. Et donc, s'il y a un noyau actif de galaxies qui souffre un effet de lentille gravitationnelle, selon la longueur d'onde, la forme de l'image va être différente. Mais c'est très, très particulier. Il faut en plus que le rapport entre les distances et les masses soit tel qu'on puisse résoudre, entre guillemets, la source. Donc, c'est quelques conditions assez rares, mais ça peut arriver.
Merci beaucoup pour l'exposé, c'était vraiment passionnant. Je me demandais comment est-ce qu'on fait la différence quand on observe une étoile, la variabilité d'intensité lumineuse des étoiles pour voir si ça vient d'une lentille. Comment on fait la différence, par exemple, avec une variabilité qui serait due à un transit ou un nuage de gaz autour de l'étoile. Et du coup, j'ai une autre petite question. Aujourd'hui, on fait comment pour surveiller énormément d'étoiles et leur variabilité? C'est quoi les... Enfin, comment est-ce qu'on espère améliorer ces observations dans le futur, si vous savez?
Voilà, alors pour la première partie, les courbes de lumière des étoiles sont chromatiques. Donc selon le filtre que vous regardez, elles vont avoir des formes très différentes. Par exemple, les céphéides, qui permettent de mesurer les distances, ont des amplitudes très grandes dans les bandes bleues. Et dans les bandes rouges ou infrarouges, l'amplitude est beaucoup plus faible. Et la forme est légèrement différente. Donc on peut distinguer cela. Les effets de lentilles sont achromatiques, et donc si vous prenez un filtre bleu ou rouge, vous êtes sûr, si c'est la même forme, vous êtes sûr que c'est un effet de lentille. Alors ça, c'est un autre exposé que je pourrais faire par ailleurs, et qui a permis justement d'identifier des étoiles lentilles. On a même l'effet de parallaxe, parce que si l'événement est suffisamment long, la Terre s'est déplacée, et donc vous avez un effet de parallaxe, et l'effet de lentille va être très sensible à cela. Et donc la forme de la courbe de lumière ne va plus être cette symétrie que je vous avais montrée avant, elle va être légèrement asymétrique, ce qui permet de contraindre la distance et donc aussi la masse. D'accord ? Quant à l'état de l'art actuellement, on fait justement des sondages d'une grande partie du ciel, et il y a deux régimes. Si on regarde les étoiles dans notre galaxie, là, on voit l'étoile résolue par rapport aux autres étoiles, et on voit la courbe de lumière sans problème. Alors, des fois, si la turbulence atmosphérique n'est pas très bonne, il y a peut-être deux étoiles, donc ça va faire qu'il y a un petit biais par rapport à quel est le flux de base, mais on peut le corriger par ailleurs. Il y a un autre régime où les galaxies sont beaucoup plus lointaines, et là, chaque pixel va contenir plusieurs centaines ou milliers d'étoiles. Vous ne savez pas laquelle a été amplifiée. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on regarde les effets de micro-lentilles vers la galaxie d'Andromède M31. Donc, chaque pixel contient, mettons, 10 000 étoiles. Et l'une d'entre elles souffre l'amplification. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas accès à ce qu'on appelle le temps d'Einstein, vous avez accès à une autre quantité. Ce n'est pas aussi propre, mais vous pouvez aussi le détecter. Et donc, d'autres collègues ont regardé avec le télescope Hubble d'autres galaxies dans l'amas de la Vierge, etc. Et donc, cela se fait. Mais sinon, pour notre galaxie, il va y avoir, par exemple, le télescope Rubin, qui va, l'année prochaine, commencer à opérer depuis le Chili, qui, lui, va aussi regarder le ciel en plusieurs bandes photométriques. Et donc, l'un des sous-produits va être, justement, énormément d'événements de micro-lentilles. Donc, il y a des collègues qui font ça en Nouvelle-Zélande, en Corée. Donc, il y a aussi un réseau de télescopes qui a été monté pour, justement, suivre en temps réel et surtout pour détecter des exoplanètes. Parce que comme j'ai montré, la durée des événements de micro-lentilles produits par exoplanètes est très courte, c'est quelques heures. Donc il faut pas la rater. Donc, et je ne vais pas montrer, mais il y a un système où on a trouvé 7 planètes par effet de micro-lentilles. C'est incroyable. Mais pour ça, il faut justement un échantillonnage temporel extrêmement fin. D'où cette idée d'avoir un réseau tout autour de la Terre pour mesurer cela. Et après, à partir de 2027, il y aura le télescope Roman qui va être lancé. Et l'un des objectifs, c'est justement faire un sondage vers le bulbe, le centre de la galaxie, pour regarder aussi des micro-lentilles gravitationnelles. Donc c'est un sujet qui est en pleine expansion. Et ici même, il y a toute une équipe qui travaille à l'IAP sur les micro-lentilles exoplanètes ou autres.
Merci. Alors on va prendre quelques questions sur tous ceux qui nous suivent sur YouTube, parce qu'il n'y a pas seulement les personnes qui sont présentes dans l'amphi, mais il y a des personnes un peu partout, y compris en province, y compris à La Réunion, donc on te regarde et on t'écoute d'un peu partout. Alors une question dite de Béotien, mais moi je trouve que c'est pas de Béotien tellement, enfin bon. L'approche d'espace-temps en tant que quatre dimensions est-elle mathématiquement un espace vectoriel, voire euclidien, voire autre, pré-hilbertien, voire hilbertien?
Non, on est en train de mélanger plein de concepts différents, là. Et je pense que ça prendrait trop de temps à répondre à cette question. Non, ce qu'on peut définir, ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps dans quatre dimensions. et non, il n'y a pas besoin de l'espace de Hilbert, et non, ce n'est pas une métrique euclidienne, parce que, sauf dans la, en relativité restreinte, mais en relativité générale, c'est tout le contraire, on a besoin de la courbure. Je pourrais recommander un très bon livre de relativité restreinte pour comprendre le concept d'espace-temps de façon presque graphique, et c'est le livre de Martin Baïs, B-A-I-S, qui s'appelle Une introduction très simple à la relativité restreinte. Et en fait, on peut le faire avec des dessins. Vous pouvez le faire vous-même en dessinant sur votre cahier X, Y et faisant les transformations qu'on appelle de Lorentz. Et vous allez comprendre la relativité de l'espace-temps de façon graphique. Je vous le recommande. Ça a été traduit en français il y a peut-être 4 ou 5 ans. Ça a dû paraître au Seuil, je crois. Vous allez le retrouver. C'est Baïs, une relativité très spéciale, je crois que ça s'appelle en français. L'édition originale est en anglais.
Alors, nous avons encore une question là. Que peut-on apprendre en observant à de multiples reprises la supernova suivant les différents trajets de lumière?
Voilà, c'est donc chaque image de la supernova a donc parcouru une distance différente. Et donc, si, imaginez que ça a explosé un jour dans la galaxie haute. La lumière va parcourir, va prendre un certain temps pour arriver à cette position-là, un autre pour arriver ici, donc il va y avoir un déphasage temporel. Et ce déphasage va nous montrer justement quelle est la quantité de matière dans cette direction-là et dans cette direction-là. Donc on peut arriver à avoir une meilleure contrainte sur la distribution de masse de la galaxie lentille ou de la malentille. Donc c'est extrêmement contraignant. Et ce qui est intéressant, justement, je vais passer un peu trop vite sur la partie philosophique, parce que le philosophe des sciences, Jan Hacking, disait que les lentilles, en fait, montrent qu'il y a un antiréalisme. Non, justement, les modèles permettent de prédire. Si j'observe cette supernova à ce moment-là, je peux prédire à quel moment va exploser dans l'autre image. Donc, c'est extrêmement contraignant, et ça permet de comprendre beaucoup mieux les distributions de masse dans la galaxie lentille, ou les amas lentilles.
Alors, il y a quelques autres remarques, mais auxquelles, si ce sont vraiment des questions, les questions vont trouver des réponses lors de nos prochaines conférences. Ça me permet de refaire une page de publicité, puisque la prochaine conférence concernera justement JWST et les premières galaxies, et la conférence du mois de mai concernera les observations de lentilles gravitationnelles, mais cette fois-ci plus du point de vue cosmologique, qu'est-ce que Euclide va nous apporter, et voilà, donc ça va venir bien compléter les remarques qui sont faites sur le chat. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, oh là là, plein. Alors...
Moi, j'avais juste un petit point que j'ai pas très bien compris. En fait, à chaque fois dans les images, on voyait que c'était la galaxie de derrière qui était bleue et qui se faisait dévier par la galaxie rouge. Est-ce que ça devrait pas être l'inverse? Parce que normalement, c'est les galaxies rouges, qui, avec l'expansion de l'univers, qui sont plus loin et qui sont déviées vers le rouge. Comment ça se fait que c'est pas l'inverse?
Bravo, c'est très, 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 très bien observé. Alors, les galaxies d'avant-plan sont plutôt rouges parce que c'est des galaxies plutôt proches et qu'elles sont très massives. Et c'est plutôt donc des galaxies elliptiques avec des vieilles populations d'étoiles. C'est pour ça qu'elles sont plutôt rouges. Alors, les galaxies sont bleues dans cette combinaison de couleurs en particulier. Mais vous avez raison, parce qu'à cause du redshift, elles sont beaucoup plus lointaines et donc elles se sont décalées. Et c'est justement parce qu'on regarde dans le filtre bleu, comme elles sont loin, on est en train de regarder la lumière ultraviolette. Et c'est pour ça qu'elles sont plus bleues. Et donc, voilà cet effet. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, on cherche aussi des galaxies lentilles qui soient, par exemple, des spirales, qui seraient plutôt bleues, et des galaxies sources qui soient plutôt rouges, comme des elliptiques. On en trouve très rarement. La plupart, ça va dû être cela. Même si intrinsèquement, elles ne sont pas nécessairement bleues. C'est simplement ce qu'on appelle la correction K, c'est-à-dire on observe dans notre référentiel une bande, par exemple, dans la bande visible, mais intrinsèquement, la galaxie est beaucoup plus lointaine et déplacée vers le rouge, donc on observe l'émission ultraviolette, donc beaucoup plus bleue. Mais c'est une observation très fine, bravo.
Oui,
Oui, bonsoir. J'ai lu que le James Webb télescope aurait découvert une galaxie qui serait née 300 millions d'années après le Big Bang. Est-ce que ce sont les mêmes systèmes de détection, donc de lentilles donc gravitationnelles, qui ont permis d'analyser une lumière qui aurait quelques 13 milliards d'années?
Alors, dans ce cas de cette détection-là en particulier, non, ce n'est pas un effet des lentilles, c'est directement l'image dans l'infrarouge. Donc, justement, l'effet d'expansion fait que la galaxie soit décalée vers le rouge, l'infrarouge. Et donc, c'est une détection directe. Et c'est un des premiers résultats très rapides qui ont été faits avec le James Webb, qui est très sensible pour cela. Mais on attend, il y a plein d'articles qui sont en train de sortir maintenant sur les effets de lentilles qui vont aller encore plus loin. Et donc, des galaxies encore plus jeunes, si possible.
Ils ont observé des galaxies très jeune avec James Webb.
Exactement.
Et Pierre Billard va nous en parler.
Voilà, c'est une image.
C'est
une image directe sans passer encore par la lentille. Mais les lentilles vont apporter encore plus. Bien sûr.
Alors, il y avait une dernière question par ici, je ne sais plus.
Il y avait juste là. Bonjour. Je voulais juste savoir si la seule donnée qui était problématique à lire, c'était l'image qui était déformée, ou je pensais notamment au calcul de distance éventuellement des objets, vu que le rayon de lumière fait des zigzags. Est-ce que ce n'est pas problématique pour calculer la distance?
Tout à fait. Alors ça, c'est aussi un autre problème totalement ouvert actuellement en cosmologie. On est en train, dans tous ces calculs, on est en train de supposer que l'univers est homogène. Et en réalité, on voit, non, il y a des grumeaux, il y a de la matière, et donc il faudrait vraiment calculer la déviation une par une. Alors, il y a des simulations qui sont en train d'être faites, avec tout le formalisme de la théorie générale, pour faire ce calcul détaillé. Mais vous avez tout à fait raison, dans le formalisme usuel, en cosmologie, on suppose que l'univers est homogène et isotrope, on suppose que les distances vont être les mêmes dans cette direction-là et dans cette direction-là, mais comme la matière le long de la ligne de visée est différente, les distances réelles vont être légèrement différentes. Donc, dans la plupart des approximations, on peut prendre simplement le redshift comme mesure de la distance, mais vous avez raison, pour aller plus finement, on aurait besoin d'une autre définition de distance qui prenne en compte justement l'inhomogénéité locale de la matière. Et donc, ça, c'est un sujet qui est un sujet de recherche très actif actuellement.
Oui. Du coup, je voulais revenir sur le flanc diffus cosmologique. Vous avez dit que. Du coup, les rayons émis initialement avaient tous varié beaucoup. Est-ce que ça veut dire que l'image qu'on a aujourd'hui du fond diffus cosmologique, c'est une image approximative du fond diffus cosmologique? Ça revient un peu sur la question.
Absolument. Lorsqu'on regarde les fluctuations du rayon cosmologique en micro-ondes, à petite échelle, elles sont totalement dominées par l'effet de lentille gravitationnelle. En revanche, aux grandes échelles, par exemple des échelles de 5 degrés ou même de 1 degré ou encore plus, là, les effets de lentilles sont très très faibles. Donc, si vous regardez le spectre de puissance des fluctuations de température, lorsque vous allez à très petite échelle, les effets de lentilles sont très très importants. Et c'est normal, hein, parce que forcément, ils ont dû souffrir toute l'interaction avec toute la matière depuis la recombinaison. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte très soigneusement.
On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Il y a une remarque. Le titre précis de l'ouvrage semble être « Une relativité bien particulière »
oui,
de Sander Baez.
Exactement.
Voilà. Ensuite, que pensez-vous de l'ouvrage « Space-Time Algebra » de David Hastings?
Je ne connais pas.
Bon. Voilà, et puis des remerciements divers et variés. Donc, merci beaucoup, David, pour cette belle conférence.
Merci. Et n'hésitez pas à venir manipuler avec soin, s'il vous plaît, ces lentilles analogiques.
Voilà, et rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée à tout le monde.